Syllabe.
Ah, Radio Sauvage.
Ça va être la même limonade, là.
Jabate ba music. Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans cette émission des Docteurs sans ordonnance. En effet, Syllabe reçoit aujourd'hui un groupe de doctorants et doctorantes de Rennes, 7 personnes dont moi-même d'ailleurs, et ce afin de parler de recherche scientifique, du quotidien des chercheurs et chercheuses, des jeunes notamment, et plus globalement de ce à quoi sert la recherche, de comment elle peut être perçue en dehors de l'université. Nous commencerons par une petite session de débat sur ce qu'est la recherche plus précisément, quel quotidien cela représente, quelle discipline on met derrière ce grand mot. Par la suite, nous verrons le cas particulier de celui de travailler dans un cas de co-tutelle, justement, comment ça s'organise, comment ça se vit. Et enfin, nous ferons un petit focus sur l'intelligence artificielle, un domaine de recherche très international aujourd'hui.
Syllabe, la radio sauvage.
Très bien, je suis Vincent, doctorant d'ailleurs, pas encore docteur même pour l'instant, doctorant en histoire, et je suis en compagnie de Roukia, avec qui je vais animer cette petite émission. Elle est aussi doctorante, quant à elle, en sciences de l'éducation, sur les ressources émotionnelles des étudiants. Bonjour Roukia, comment vas-tu ?
Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venu partager avec nous ces quelques instants. Passons sans attendre à notre premier échange. Et pour nous accompagner, nous recevons 3 doctorants. Fang, bonjour Fang.
Bonjour.
Tu es docteur en informatique et tu travailles sur la radiologie et l'intelligence artificielle. C'est bien ça ?
Oui, oui.
On reste toujours dans l'intelligence artificielle avec Guénolé. Bonjour Guénolé.
Bonjour.
Tu travailles dans le milieu du sport et tu analyses les mouvements des nageurs dont tu nous parleras plus en détail tout à l'heure.
C'est exactement ça.
Pour ce premier temps d'échange, nous recevons également Rabiatou, qui est en co-tutelle entre l'université Rennes 2 et son université au Burkina Faso. Bonjour Rabiatou.
Bonjour.
Toi, tu t'intéresses aux apprentissages de l'anglais à travers les TIS. Et les TIS, c'est quoi ? C'est les technologies de l'information, de la communication pour l'enseignement. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Nous serons rejoints tout à l'heure pour un second temps d'échange par Josué et Hadi que je vous présenterai tout à l'heure.
Très bien, merci Roukia. Donc, pour introduire ce grand sujet de la recherche, nous allons commencer par faire une petite enquête pour demander à diverses personnes, dans la rue en fait, ce à quoi correspond la recherche scientifique pour elles. C'est précisément la question que nous leur avons posée. Et donc, nous avons formé 2 groupes partis un peu à la chasse aux interventions, si je puis dire. L'un sur la dalle de Kennedy et l'autre aux abords du campus de Rennes 2. De là, plusieurs thèmes sont apparus dans ce que nous avons pu écouter et qui nous ont semblé plus particulièrement intéressants à souligner ici. Tout d'abord, dans quel domaine a lieu la recherche scientifique, ce que cela représente pour les gens, question que l'on verra plus précisément dans un premier débat. Et dans un second temps, un second petit débat, nous verrons justement en quoi la recherche que les doctorants et doctorantes peuvent mener s'intègre dans un univers scientifique plus large et quelle méthodologie ils adoptent précisément pour s'y faire une place et comment ils l'appliquent au quotidien. Et donc on commence tout d'abord par une première série de réponses.
Oula, c'est vaste. La recherche scientifique, pour moi, c'est des recherches approfondies, très approfondies, sur le domaine de la science, tout simplement. Je vois pas, je sais pas trop comment argumenter plus.
Du coup, pour moi, la recherche scientifique, c'est l'étude d'échantillons dans le but d'élaborer des solutions à un problème défini.
Selon moi, la recherche scientifique, c'est les études et les actions menées par des scientifiques pour mieux comprendre les phénomènes naturels sur la planète.
La recherche scientifique, c'est de, c'est juste l'objectif de pouvoir réaliser et de sauver les gens.
Bah,
Ça dépend, c'est dans quel but. Est-ce que c'est des chercheurs ou c'est des étudiants? Des chercheurs, ils cherchent des trucs nouveaux au niveau de comment, au niveau de facilité pour la vie des gens.
Je m'attendais pas à ça.
Je m'attendais pas à quelque chose de
Je sais pas, là, dans l'immédiat, il faut que je réfléchisse un peu. La recherche scientifique, c'est travailler sur un sujet en profondeur, non? Enfin, je sais pas.
La recherche scientifique, moi j'aime la forêt, qu'il soit bien nettoyé, toutes les ordures ménagères, voilà, que les gens ils balancent pas les canettes partout, voilà, après ça pollue la planète, voilà. Après la planète va nous détruire, enfin, voilà. Après là, on est à l'approche de la fin du monde.
Je suis censée savoir, je viens de commencer un master de recherche, donc...
Nous venons d'écouter ces propos recueillis dans la rue. On voit bien que cette question de la science est très vague pour certains et complètement méconnue des autres. Vous qui êtes doctorant, jeune chercheur, comment définiriez-vous cette question de la recherche scientifique, toi, Guénolé?
Pour moi, la recherche scientifique, ça va être en fait toute la démarche qu'on va mettre en place pour faire avancer un domaine scientifique. Donc, comme ce qu'on a pu entendre dans les interventions des personnes interrogées, ça peut être par exemple faire de la recherche en chimie ou en médecine pour trouver de nouveaux médicaments.
D'accord. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, hein, Guénolé. On voit bien que dans cette définition de la recherche, tu présentes un petit peu une recherche assez délimitée au final autour des champs, des sciences expérimentales. Toi, Rabiatou, est-ce que tu partages cette vision ?
Merci. Moi, je dirais que... D'abord, pour ce qui est de la recherche scientifique, je suis d'accord avec le fait que c'est... Cela repose sur le fait de mener une étude en vue de trouver ou apporter des solutions à un problème spécifique. Mais quant au domaine dans lequel intervient la recherche scientifique, je dirais plutôt que ça relève d'un domaine beaucoup plus vaste que cela. Et je dirais même qu'on peut faire la recherche scientifique dans tous les domaines de la vie. Voilà, par exemple, on peut faire la recherche scientifique sur l'environnement. En ce moment, on parlera de sciences de l'environnement ou dans le domaine de la santé, on parlera de la médecine, dans le domaine de l'éducation où on parlera de sciences de l'éducation. Donc, dans presque tous les domaines de la vie, ce n'est pas seulement réservé qu'aux sciences expérimentales. Voilà.
Mais au final, d'où vient cette vision justement qui réduit un petit peu la recherche scientifique aux sciences expérimentales?
Alors moi, je pense que ça vient beaucoup de l'enseignement, par exemple au collège, où on assimile les sciences à la physique, à la biologie et aux maths, et pas du tout à, par exemple, l'histoire ou la géographie, qui sont pourtant aussi des sciences.
Merci beaucoup à vous pour ces précisions.
Très bien, des interventions très intéressantes. Donc on voit bien que finalement, la recherche scientifique regroupe de très nombreux domaines. Ça ne s'arrête pas donc aux physiques, aux mathématiques, etc. Mais justement, cette recherche s'intègre dans un univers scientifique plus large. Et pour ce faire, il faut avoir une certaine méthodologie pour s'y faire sa place. C'est précisément ce que l'on a pu entendre aussi, dont on a pu entendre des ébauches dans les interventions qu'on a pu faire, qu'on a pu récolter dans la rue. Et c'est précisément ce qu'on va voir à présent avec cette seconde série de témoignages.
Moi, j'ai plutôt une avancée technologique pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas sur plusieurs domaines justement de la recherche scientifique.
Pour moi, c'est essayer d'apporter peut-être sa pierre à l'édifice, essayer de contribuer de manière générale la recherche dans un domaine en particulier.
La recherche scientifique... c'est faire des avancées dans la science et c'est pas beaucoup valorisé en France pour moi.
La recherche scientifique, c'est en fait on a un document ou un sujet et en fait on recherche là-dessus. Enfin, j'avoue que je sais pas trop.
Je vois que c'est une question très complexe même de la recherche scientifique. Tout à l'heure j'étais en train de lire un document de Shapiro qui parlait même de la recherche, l'œuvre littéraire globalement, qui a été un peu, je sais pas, différenciée du pôle scientifique, c'est-à-dire du pôle universitaire. Mais je pense que la recherche scientifique, en grosso modo, c'est une recherche qui obéit à des critères qui sont là, qui ont été définis. Objectivité, universalité, je pense, oui.
Pour moi, la recherche scientifique, c'est un champ de bataille maintenant, parce qu'il y a toujours cet esprit presque positiviste, que c'est lié toujours à l'enquête de terrain et aussi à la production des données propres empiriques. Mais vraiment, pour moi, c'est une position absolument faible, parce que l'esprit scientifique, c'est précisément de faire les synthèses, de faire l'interaction entre différentes données qui existent déjà, et aussi pour ici, suivre une porte ouverte à la réflexion sur les données. Pour moi, l'idée de la recherche scientifique, c'est lié plus qu'à l'idée de production des données, à deux idées différentes, la transdisciplinarité et l'esprit critique. Sans ça, la recherche scientifique, peut-être c'est une bonne application de méthodologie, mais il n'y a pas vraiment un esprit scientifique sur l'application des méthodologies ou des techniques d'enquête. L'esprit de la recherche, c'est la critique et la transdisciplinarité.
Vous êtes toujours sur CELAB 88.4. Nous venons d'entendre d'autres propos recueillis auprès des passants sur le campus et au cœur du quartier de Villejean. Les réponses sont beaucoup plus précises que tout à l'heure, puisque certains évoquent la notion de continuité, de consensus, de communauté scientifique ou encore d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous sommes toujours en présence de Guénolé. Nous ont rejoint Hadi et Josué. Bonjour Hadi, bonjour Josué.
Bonjour.
Je vais vous présenter un petit peu. Hadi, toi tu es doctorante en géographie et tu t'intéresses à la question de la gouvernance de l'eau potable au Sénégal.
Tout à fait.
En co-tutelle avec l'université, entre l'université du Sénégal. Josué, toi, tu es également en co-tutelle avec l'Université du Bénin et l'Université de... Non, avec Rennes. Et tu travailles sur la construction avec des terres argileuses. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Guénolé, dites-moi, vous, en tant que jeune chercheur, comment est-ce que ces notions de continuité, de consensus, de communauté scientifique, comment est-ce que tu les vis au quotidien dans ton travail ?
Alors, je pense que c'est des notions qui sont très importantes en recherche, parce qu'en fait, on ne va pas chercher dans son coin. Il y a donc ce qu'on appelle la communauté scientifique, qui travaille donc souvent sur des domaines proches ou liés aux nôtres, et on va toujours chercher à s'inscrire dans la continuité en partant de ce qu'ont fait les autres pour apporter notre pierre à l'édifice.
Oui, et justement, je rebondis sur cette pierre à l'édifice qui a été évoquée à plusieurs reprises. Et là, je m'adresse à Josué qui est dans la construction, qui s'intéresse à la construction. Comment est-ce que toi, tu apportes ta pierre à l'édifice, justement, dans ton travail au quotidien ?
Merci, Rukiat. La question de la recherche scientifique ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire qu'on cherche, sans trouver ? Je ne pense pas. D'une manière générale, la recherche scientifique, aboutissant à des résultats, donne souvent lieu à la publication d'articles scientifiques dans une revue bien déterminée. Alors, comme le dit un proverbe africain, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on essaie de tisser la nouvelle. Et cette méthode, en fait, c'est une méthode d'évaluation et de vérification qui permet de vérifier les théories existantes ou de créer de nouvelles hypothèses à tester. Cela veut dire simplement que celui qui est dans la démarche ou dans la recherche scientifique s'intéresse aux différentes théories qui existent déjà, les failles, les hypothèses ou les paramètres qui n'ont pas été pris en compte, histoire de voir sous quel angle mener son attaque et apporter sa part à l'édifice. Merci.
Merci à vous deux pour cette présentation.
Syllabe, la radio sauvage.
Pour aller plus loin, je vais donner la parole à Khadi, qui va nous faire une petite synthèse de cette question de la recherche scientifique à travers les aspects méthodologiques. Bonjour Khadi.
Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. De manière générale, on peut dire que la méthodologie est l'ensemble des procédés techniques utilisés dans une recherche scientifique, quel que soit le domaine d'étude. Autrement dit, c'est le fil conducteur qu'adopte un chercheur pour arriver à sa fin. Il est important de noter que la structuration de cette méthodologie peut différer d'un domaine à un autre. Exemple, dans les sciences sociales, on a généralement l'habitude d'étudier les réalités sociales en s'appuyant sur les observations et enquêtes de terrain. Ce qui est tout à fait le contraire pour les sciences exactes, où l'on passe par des expérimentations ou bien des analyses au laboratoire. Aussi différentes qu'elles soient, elles arrivent toujours à une même issue, c'est-à-dire l'aboutissement à des résultats qui peuvent être en faveur de l'homme et de son environnement.
Eh bien, voilà une belle synthèse pour bien comprendre ce qu'est la démarche scientifique. Merci à vous pour ces précisions qui donnent envie d'aller faire de la recherche.
Oh, when I bar a city, him a lacatigi a la lena. We have been for city, him a lacatigi a la lena. We have been a city, him a lacatigi a la lena. Oshima fake city, him a lacatigi a la lena. Jana fatu juyala. Na fate jugu yala, na fate kori yala, ya na fate jugu yala, na fate kori yala. Neru no te, sidiki no te masala mami ke yo si se hola. Se kote na baño ma yo ni se bote. Se kote, da kante sa, na kante ke na kante kora bola. Neven takane bolo ye kana jina jato ko tigi la fialete jawari tigi la fialete fatan keni la fialete ali president la fialete ala mami ke yo ni se tola se kote beni dale no se kote o kana barasi di hima daka tigi ala lena ye.
Na fate juguyala, na fate koniyala, 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 na fate juguyala, na
Nous venons d'écouter Sidiki Diabaté, un son choisi spécialement par Rabiatou. Rabiatou, dis-moi pourquoi ce son ?
En fait, ce son, je le trouve un peu en relation avec notre sujet, hein, notamment la recherche scientifique, qui repose sur le fait de trouver de nouvelles idées ou de nouvelles solutions à des problèmes définis. Et également, je peux dire, faire du bien. Voilà, puisque l'auteur de cette chanson, Diabaté Sidiki, qui est d'origine malienne, parle de l'importance de faire du bien. Voilà, et aussi la musicalité, je la trouve très intéressante, voilà.
Merci à toi de nous faire découvrir cet univers qui nous fait aller vers l'Afrique.
Syllabe.
C'est normal ou original ?
La radio sauvage.
Jamais reproduit.
Merci à toi.
Passons à présent à la seconde partie de l'émission qui est consacrée à nos invités qui vont nous parler de leur travail et de leur quotidien de doctorant et surtout comment est-ce qu'ils font de la recherche et comment est-ce qu'ils amènent cette partie de leur vie au quotidien. À mes côtés, toujours Rabiatou, Hadi et Josué, qui vont nous expliquer un petit peu leur travail. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites exactement dans vos travaux ? Rabiatou, recherche dans les langues, qu'est-ce que c'est ?
Merci. D'abord, disons que je suis doctorante en coutuitaine à l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso et également à l'université Rennes 2. Et je travaille sur l'enseignement des langues à l'aide des TIS. Les TIS qui veut dire les technologies de l'information et de la communication dédiées à l'enseignement. Et donc moi, je travaille plus particulièrement sur l'enseignement de la compréhension orale en anglais en utilisant les TIS. Parce que dans mon université, malheureusement, on n'a pas le cours de la compréhension orale, comme on le dit en anglais, le listening comprehension, dans notre programme d'enseignement. Et du coup, moi, j'ai l'intention d'explorer, en me basant sur l'exemple de l'université Rennes 2, les méthodes d'enseignement à l'aide des TIS pour... faire bénéficier ces nouvelles méthodes-là à mon université.
Donc, voilà. C'est une approche comparative entre les deux pays ?
Oui, on peut le dire comme ça.
D'accord. Josué, toi, tu es doctorant en génie civil et tu t'intéresses aux constructions en alliant l'ancien et la modernité. Alors, présente-nous un petit peu ton travail et comment est-ce que tu fais au quotidien qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton doctorat?
Merci Rukyat. Je suis en troisième année de thèse sur mon projet de doctorat portant sur une étude approfondie sur l'utilisation des blocs de terre crue compressés au laboratoire de génie civil de l'INSA de Rennes. Et cette thèse se fait en co-tutelle avec l'Université du Bénin. Alors, pour rester dans le contexte du développement durable, qui est une préoccupation au plan mondial, la terre crue suscite un regret d'intérêt de nos jours pour la construction neuve du fait de son faible impact environnemental et du confort thermique qu'elle procure. Alors, connaissant que les parois de la terre crue disposent d'une inertie thermique importante permettant de renforcer les changements de phase de l'eau et qui sont capables de capter de l'eau et des apports solaires. Alors, pour rester dans ce contexte, mes travaux de recherche me permettent en fait d'étudier en quelque sorte le comportement de ce type de matériaux par rapport à son avantage. Et si je prends par exemple sa forte inertie qui offre un confort d'été hein, remarquable, et son emploi peut-être peut être envisagé aussi pour lutter contre les effets des îlots de chaleur urbains. Donc j'ai pu définir une méthodologie bien déterminée, comme on l'a déjà dit dans le précédent dans notre échange de tout à l'heure. Et je m'intéresse principalement à la terre, parce que aujourd'hui nous savons très bien que vivre dans un bâtiment écologique est une préoccupation de tout le monde. Comment il faut vivre en étant dans le naturel possible. Et voilà, la terre en elle-même est une bonne opportunité pour y vivre de manière écologique. Alors, la question qui est évidente, c'est pourquoi la terre ? Je m'intéresse à la recherche sur la terre, la construction en terre, tout simplement parce que j'ai grandi dans une maison en terre et je connais tous les avantages qui sont liés, les avantages qui sont liés au fait qu'il faut vivre dans un logement où c'est bâti en terre. Et voilà. Merci beaucoup.
Merci à toi. Passons à présent à la présentation de Khadi, qui est en géographie et qui travaille sur la gouvernance de l'eau potable. Dis-nous un peu plus.
Merci Orkea de m'avoir donné la parole. Comme vous l'avez si bien dit, je travaille sur la gouvernance de l'eau potable. Vous conviendrez tous avec moi que l'eau est une source de vie. Sans eau, on ne peut pas vivre sur Terre. Et malgré son importance, l'eau est inégalement répartie sur Terre. Il y a une bonne partie du monde qui n'en a pas accès, et cela en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement au Sénégal, surtout en milieu rural. On constate que la répartition, la distribution de l'eau est faite de façon très inégale, c'est-à-dire elle est en faveur des citadins, des gens qui sont localisés en ville. Et pour remédier à cela, j'ai comme objectif de recherche de comprendre ce qui est à l'origine de cette inégalité, de voir ce qui est les failles de gouvernance de l'eau potable qui est mise en place au Sénégal. Malgré les énormes réformes qui ont eu lieu, toujours les problèmes d'accès à l'eau potable restent d'actualité au niveau local. Et pour ce faire, j'ai adopté une méthodologie qui est répartie en trois grandes phases, c'est-à-dire la revue de la littérature. Après cela, je vais passer aux collectes de données de terrain, c'est-à-dire tout ce qui est enquête de terrain, tout ce qui est interview et interrogation directe auprès des ménages et en même temps auprès des autorités qui sont chargées de tout ce qui est politique de l'eau au niveau de Saint-Louis du Sénégal. Je rappelle juste que je suis sénégalaise et je suis au courant de ces difficultés que vivent les populations locales au quotidien pour ne serait-ce à satisfaire leurs besoins alimentaires en eau potable. Et je peux dire que mon étude a pour utilité de voir comment est-ce que de voir les dysfonctionnements des réformes hydrauliques, en même temps essayer de comprendre les fondements de primauté de la distribution de l'eau potable, afin d'espérer une distribution équitable de l'eau potable au niveau du Sénégal. Merci.
Merci à toi et merci à vous trois pour cette présentation. On voit bien la diversité des travaux qui sont très passionnants. Une question pour tous les trois. Vous avez dit que vous êtes en doctorat en co-tutelle avec vos universités d'origine. Qu'est-ce que c'est que la co-tutelle ?
Merci pour cette question, parce que je peux dire que la co-tutelle n'est pas quelque chose qui est bien connu par le public de façon plus claire. Je peux dire que la co-tutelle peut être considérée comme une coopération scientifique internationale faite sur la base d'une convention de co-tutelle et signée entre deux universités. Ça va être signé par les personnes ressources de chacune des universités. Et elle permet à un étudiant d'effectuer son travail de recherche sous la responsabilité de deux directeurs de thèse de deux pays différents. Ainsi, c'est la convention de co-tutelle qui peut être considérée comme le contrat qui définit tout ce qui est l'organisation de la thèse, à savoir la répartition des séjours entre les deux universités. Il y a aussi la répartition des paiements des frais d'inscription. Il y a le titre du diplôme. Il y a aussi le nombre du jury de soutenance de la thèse. Enfin, la date et le lieu de soutenance de la thèse. Il est important de souligner que toute la soutenance a lieu dans une seule université et elle aboutit à la délivrance de diplômes. Merci.
Merci pour cette précision. Dans ta présentation, tu parles de ces démarches administratives et je me demandais si c'était facile à mettre en place ou c'était quelque chose de prenant. Et surtout aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on se trouve, des mesures sanitaires qui ont été mises en place avec la Covid, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à mettre en place cette co-tutelle et comment cette co-tutelle s'est mise en place? Rabiatou.
Ok, merci. Moi, je dirais que la co-tutelle, comme elle l'a si bien définie, qui permet à un doctorant d'effectuer sa scolarité ou de mener ses études en alternance en deux universités. Voilà, ça c'est un peu l'avantage de la co-tutelle, mais disons qu'avec le contexte du Covid-19, moi particulièrement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Par exemple, l'année 2020 à laquelle le Covid a commencé, je me rappelle que je suis arrivée ici et 13 jours après, on a été confinés. Du coup, le programme que j'avais établi, le programme de travail que j'avais établi avec ma directrice, je n'ai pas pu effectuer ce programme-là. J'ai dû travailler uniquement en ligne. Pourtant, on avait des séances d'échange avec des doctorants, on avait des séminaires et des conférences. Et malheureusement, je n'ai pas pu prendre part à toutes ces séances-là. Donc, c'est pour dire qu'il y avait un avantage, mais avec le Covid-19, en tout cas, j'ai en tout cas rencontré beaucoup de difficultés également pour rentrer. J'avais terminé mon séjour, mais je ne pouvais pas rentrer parce que les frontières étaient fermées. Également, quand je suis rentrée, je devais revenir, puisqu'avec la co-tutelle, il faut. Le temps doit être partagé. Il faut passer la moitié du temps ici et également dans l'autre université. Donc l'année dernière, à cause du Covid, bon, je ne pouvais pas venir effectuer le temps de séjour que j'avais effectué ici. Voilà, donc ça c'est un peu les difficultés en tout cas que moi j'ai rencontrées dans le cas de cette co-tutelle-là.
D'accord. Et justement dans ce cadre où vous devez passer une partie en France et une partie dans vos universités d'origine, comment est-ce qu'elles s'organisent, la mobilité? Est-ce que qui prend en charge cette organisation? Comment elle se fait, cette organisation, Josué?
Ok, merci Rukiat. Parlant de la co-tutelle, d'abord je tiens à souligner que c'est toujours dans la démarche en fait d'améliorer les relations internationales scientifiques entre plusieurs pays. que la Côte d'Italie en fait est établie. Et la personne qui relie en fait deux universités ou deux pays dans cette démarche en fait est le doctorant. Et celui-ci en fait effectue des séjours dans les deux pays où il est censé en fait donner des résultats au cours de chacun de ces séjours au cours de ces de donner des résultats au cours de chacun de ces séjours. Alors, pour mener à bien ces travaux de recherche, il faut forcément qu'il se retrouve dans des conditions bien définies, que ce soit du point de vue social ou bien tout et tout. Et dans cette démarche, les deux universités en fait mettent en place une recherche de financement. Et cette recherche de financement, ça peut être l'octroi d'une bourse à laquelle postule ce dernier. Et c'est lorsque ce volet de financement est conclu et que la Côte-Italie en fait se déclenche. Et c'est à partir de cet instant que les séjours sont définis et le doctorant en question essaie de mener ses travaux dans les deux universités. Comme le disait tout à l'heure ma collègue, des difficultés, on en compte toujours, il y en a toujours des difficultés. Je me souviens quand j'avais fini mon premier séjour ici en France et que je devais repartir au Bénin pour mon séjour du Bénin. J'avais fait un crochet au Ghana et subitement, je suis tombé dans la période de la COVID où les frontières étaient totalement fermées. J'ai perdu pas mal de mois. Au lieu de 2 semaines que j'avais prévu initialement, je me suis retrouvé à faire plus de 4 mois au Ghana. Donc d'accord. Voilà les difficultés auxquelles on peut être affronté quand on est dans la Côte d'Italie. Et tout ce temps en fait, que j'ai accusé au Ghana, je suis en train de payer le prix maintenant parce qu'il faut satisfaire les résultats escomptés et tout. Donc voilà ce que je peux dire. Merci.
D'accord. Au final, ce contexte sanitaire vous a plus desservi à tous les trois, enfin peut-être pas toi, Hadi, parce que tu n'as pas connu cette période, tu viens de commencer.
Je peux dire que je n'ai pas connu cette période, parce que avec maintenant l'Internet, on peut parler à distance. C'est ce que j'ai fait cette année-ci avec ma directrice de thèse qui était à Rennes. Je faisais des visioconférences tous les 15 jours. Et j'ai réussi à arriver à tout ce que j'avais à faire. Mais je peux dire que, à part la mobilité, une fois ici en France, il y a aussi des difficultés. Que, par exemple, tout ce qui concerne les papiers à fournir, par exemple, si je donne l'exemple de la sécurité sociale, il y a énormément de papiers à fournir. Et parfois, ces papiers, on est obligé de demander au niveau de l'Afrique pour pouvoir les avoir à notre disposition. En plus de cela aussi, il y a le côté administratif. Il y a tout ce qui est inscription, tout ce qui est connexion. On est parfois confronté à des difficultés à n'en plus finir. Il y a aussi au niveau national, parce que dans le cadre général, y a, au niveau national, on rencontre aussi des difficultés. Par exemple, notre entourage en a marre de nous voir toujours étudier. Ils espèrent nous voir dans un poste et d'arrêter enfin de travailler. Il y a aussi tout ce qui est solitude, tout ce qui est émotion. Et je m'en arrête là.
Bah justement, j'allais en venir de cette partie-là, du brouillard administratif que nous-mêmes, en France, nous connaissons. Et j'imagine bien que ça va être d'autant plus difficile hein, quand on arrive et qu'on ne connaît pas le fonctionnement, justement. J'avais... une petite question, une dernière question à poser à nos invités. Est-ce que aujourd'hui, cette question de la mobilité, est-ce qu'elle est réglée? Est-ce qu'elle se règle définitivement à un moment? Ces difficultés-là, est-ce que vous avez réussi à les contourner à chaque fois?
Moi, je dirais que le problème est le problème de mobilité, tout ce qui est administratif et autres. Bon, je pense qu'à un moment donné, ça se règle. C'est au début, comme on dit, tout début n'est pas facile. Donc, c'est dans les premiers moments que c'est un peu compliqué. Mais après, quand on finit de régler toutes ces histoires d'inscription et autres, après, c'est bon, quoi. Voilà, donc c'est juste le début qui est compliqué, mais par la suite, on s'habitue et puis on fait avec.
Ben comme quoi, tout s'arrange.
Ouais.
Ben, merci à vous trois pour cette présentation et ce moment d'échange. Pour faire la transition avec la suite, nous venons d'écouter un morceau choisi par Guénolé sur, autour de l'intelligence artificielle. Dis-nous un petit peu que représente ce morceau que l'on vient d'écouter.
Ce morceau, c'était All Night Beach Party d'Aiva. Et en fait, c'est un artiste un petit peu particulier car c'est le premier compositeur virtuel qui a été reconnu par la SACEM. Et donc, en fait, c'est un modèle d'intelligence artificielle, de deep learning, qui va composer toutes ces musiques.
Merci à toi. Ce qui nous permet de passer à la suite des échanges, puisque nous allons parler à présent d'intelligence artificielle avec toi, Guénolé, mais également avec toi, Fang. Mais avant de me présenter, de nous présenter votre travail à chacun, définissez-moi un petit peu, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'intelligence artificielle, donc il n'y a pas de définition vraiment précise acceptée par tout le monde, même dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais pour moi, c'est un peu toutes les méthodes qui vont permettre d'apprendre à une machine à faire des tâches que d'habitude, ce sont les humains qui vont faire.
Syllabe. C'est normal ou original ?
La radio sauvage.
Jamais reproduit.
Merci à toi.
Alors, je précise pour nos auditeurs que pour faciliter la discussion, Fang parlera parfois en anglais et alternera avec le français. Fang, toi, tu travailles sur les questions de la radio, à la radiologie. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, concernant mon travail, c'est radiothérapie. Et radiothérapie, c'est envoyer les rayons X aux tumeurs. Mais pour réduire les dommages aux les organes normaux, donc c'est important de choisir et optimiser les directions de rayons X. Donc maintenant, mon travail est d'utiliser l'intelligence artificielle et je dessine un réseau deep learning et puis remplacer le moyen traditionnel pour optimiser les directions de rayons X. Donc c'est plus facile et il y a plus d'options pour choisir les directions.
Merci à toi. Toi, Guénolé, tu es ingénieur de formation. Avant de nous présenter ton travail de doctorant, ce que tu fais dans ta thèse, ma petite question, c'est pourquoi avoir choisi la recherche plutôt que d'aller travailler en tant qu'ingénieur ?
Alors ça, c'est parce que donc au cours de mes différentes expériences, notamment mes stages en école d'ingénieur, je me suis rendu compte que un travail d'ingénieur en intelligence artificielle consiste essentiellement à appliquer des modèles existants qui sont justement développés par les chercheurs. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie d'aller un peu au fond de la question, de mieux comprendre en quelque sorte ce que je faisais et de créer ces modèles-là.
D'accord, merci. Et du coup, dans ton travail aujourd'hui, en tant que jeune chercheur, qu'est-ce que tu fais ?
Donc, alors moi, je suis doctorant en première année à Centrale Supélec et ma recherche traite des images appliquées au sport. Et donc, plus particulièrement, mon travail va consister à estimer la posture de nageur. Donc en fait, ça consiste en localiser les articulations pour pouvoir ensuite dessiner le squelette du nageur sur l'image. Et donc tout cela va pouvoir fournir des outils aux entraîneurs de natation pour pouvoir analyser la nage de façon plus quantitative avec des chiffres de façon plus rigoureuse et ainsi d'améliorer les performances des athlètes.
D'accord. Donc si j'ai bien compris... Bientôt, on va pouvoir analyser les mouvements de chaque nageur et l'aider à augmenter ses performances et être beaucoup plus... On va gagner des médailles, en quelque sorte.
On peut l'espérer, oui.
Ok, merci à toi de nous faire gagner des médailles. En vous écoutant, je me suis dit, mais l'intelligence artificielle, mais finalement, c'est très vaste, ça couvre un large champ. Est-ce qu'il y a des vous, lorsque vous échangez entre vous, par exemple entre toi et Fang, est-ce que vous voyez des points communs? Est-ce que vous avez des divergences d'un champ à l'autre?
Oui, il y a des divergences dans les champs d'application, par exemple, car Fang travaille plutôt en médecine et moi plutôt dans le domaine du sport. Par contre, en ce qui concerne les techniques qu'on va utiliser, par exemple, on travaille tous les deux sur du deep learning, donc c'est en fait des réseaux de neurones artificiels, et donc les méthodes vont être communes. Et c'est un domaine en fait qui évolue extrêmement vite. Il y a toujours des nouvelles technologies, quand on a plus de puissance de calcul, par exemple, et donc du coup, même si on travaille sur les mêmes méthodes, on va pouvoir les appliquer à tant de domaines différents qu'il n'y a pas une intelligence artificielle.
D'accord. Au final, quand on est dans l'intelligence artificielle, on parle de quoi entre nous?
Je pense qu'on a toujours de quoi parler, car il y a tellement d'évolutions que c'est impossible pour un chercheur en intelligence artificielle d'être au courant de tout ce qui se passe. Et donc on va toujours pouvoir échanger, découvrir des nouvelles choses qui peuvent nous inspirer d'ailleurs dans nos recherches, des nouvelles techniques. Et voilà, tout ça c'est hyper intéressant, même s'inspirer d'un domaine à l'autre par exemple.
D'accord, merci à vous pour cet échange. Je laisse à présent la parole à Vincent qui va conclure en beauté cette émission.
Merci Rouka. Bon, conclure en beauté, ça je ne le sais pas exactement. Mais en tout cas, on va essayer. Donc on a eu pour conclure, pour finir cette émission, une vision d'avenir donc avec ces deux recherches sur l'intelligence artificielle. Mais même si nous finissons sur des questions informatiques, mathématiques ou médicales, nous avons pu voir au cours de ces quelques minutes qu'il y a une grande diversité que peut prendre la recherche scientifique. On a vu des sujets de géographie, de sciences de l'éducation, d'informatique, de génie civil. Tous ces sujets sont très divers, mais finalement ont des points communs dans la pratique quotidienne du travail de doctorant. Et finalement, c'est vraiment la chose, quelque chose qui est totalement soupçonné en dehors des murs de l'université. Soupçonné tant dans ses plaisirs que dans ses douleurs, tant dans ses plaisirs que dans ses douleurs, dans ses méthodologies, dans son quotidien. Dans certaines particularités qui peuvent le rendre encore plus difficile, nous avons vu le cas des co-tutelles qui demandent un travail vraiment très international, des déplacements à l'international. Mais tout ceci forme bien une des principales richesses de la recherche, et je pense que c'est un bon moyen, une bonne façon de conclure, pour ainsi dire. Voir un petit peu la richesse de la recherche par la diversité de ces sujets. Et donc, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je pense qu'on va pouvoir conclure.
Merci à toi pour cette conclusion. Cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous d'être venus partager ces moments de votre vie, de votre quotidien de doctorant, et nous montrer qu'un docteur peut aussi être sans ordonnances.
Et merci aussi à toi Rouka pour avoir animé l'essentiel de cette émission. Merci à Manon à la technique et bien sûr à nos auditeurs et auditrices. À présent, la suite de vos programmes sur C-Lab, sur le 88.4 FM et sur c-lab.fr.
Siriki, Jabate, Alhamdulillah, Rabbali Alamina, Ekeri Faye, Nala Ible, Yonon, Yibi Manka, Chama Menga, Okani Toro, Kani Kofi Lele.